VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Niger, au moins 6 civils tués et 7 autres blessés jeudi soir dans une attaque du groupe islamiste Boko Haram près de la ville de Bosso, dans l'extrême sud-est du pays, selon un communiqué de l'armée nigérienne aujourd'hui. Le bilan provisoire de l'attaque contre le village de Yébi à proximité de la ville garnison de Bosso est le suivant, précise le communiqué. 6 morts, dont 2 tués par balle et 4 brûlés vifs, plus 7 blessés qui ont été évacués vers un hôpital. Avant de se replier vers le Nigeria, les assaillants ont incendié 10 habitations et le marché local. Ils ont également emporté 2 voitures appartenant à des particuliers. Des opérations de ratissage sont en cours, ajoute l'armée nigérienne. Depuis février 2015, le Niger est la cible d'attaques de Boko Haram dans le sud-est du pays, proche du nord-est du Nigeria, berceau de l'insurrection islamiste. Mali, 2 humanitaires maliens de l'ONG Médecins du Monde Belgique et leur chauffeur, enlevés jeudi par des hommes armés dans la région de Ménaka dans le nord-est du pays, ont été libérés. Plus de détails sur la vague de violence dans la région avec Morgane Guiriec.
Les 2 travailleurs maliens de l'ONG Médecins du Monde Belgique avaient été enlevés près de Ménaka par des hommes armés. Leur conducteur, de nationalité malienne, avait également été kidnappé. La veille, mercredi, un véhicule loué par Médecins du Monde Belgique avait été attaqué et saisi par des hommes armés près de Ménaka. Un infirmier et un chauffeur qui se trouvaient à bord avaient réussi à se sauver. Toujours mercredi, 5 casques bleus tchadiens ont été tués et 3 autres grièvement blessés dans une embuscade dans la région de Kidal.
En Afrique de l'Ouest, plusieurs facteurs contribuent à l'expansion du terrorisme. Il y a la porosité des frontières qui rend difficile la lutte contre ce fléau et aussi les limites en équipement, en ressources financières et en capacité des pays concernés. Alors que la menace s'était longtemps focalisée au surtout au Mali, le Burkina Faso n'est plus épargné maintenant. Au micro d'Éric Manirakiza, le politologue au sein de OSIWA, Open Society for West Africa, Mathias Ongpe, donne 2 raisons majeures.
Le premier, c'est qu'il faut reconnaître qu'avec le départ du président Compaoré, il y a quand même un besoin d'ajustement des acteurs politiques ou des leaders politiques au Burkina à la manière dont l'ancien gérait des situations de ce genre. Vous savez que sous le président Compaoré, il n'y avait presque pas d'attaque contre le Burkina parce qu'il était à la fois dans des réseaux d'acteurs impliqués dans ce genre d'action et en même temps à l'intérieur, il avait des forces. La deuxième raison, c'est quand même le fait que le Burkina est associé à des actions, que ce soit au niveau régional ou au niveau international, de lutte contre le djihadisme ou l'extrémisme violent. Il y a une sorte d'expansion des actions, du terrorisme maintenant, qui est sorti des pays traditionnellement concernés, à savoir le Mali, par exemple, au nord du Mali ou au nord-est du Nigeria, pour s'étendre dans la région, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, au Niger.
Et est-ce que les armées sur place sont-elles capables de juguler cette menace djihadiste?
Disons que c'est très difficile. Comme vous le voyez, même dans les pays développés qui disposent de moyens beaucoup plus importants que les nôtres, ce n'est pas simple, c'est encore plus difficile. Les pays essaient quand même, tant qu'ils peuvent, de se protéger. Et je pense que lorsque vous regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on pense quand même que la Côte d'Ivoire a été très réactive lorsqu'il y a eu l'attaque de Bassam il y a quelques semaines. Et je pense que vous regardez un pays comme le Sénégal, je crois que le Sénégal essaie par ses moyens de se protéger. Donc je pense que dans les limites de leurs moyens, ces pays sont capables de raisonnablement se protéger, même s'il doit être reconnu que c'est très difficile pour eux, étant donné la limite de moyens dont ils disposent.
Mathias Ongpe, joint à Dakar, au Sénégal.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Tchad, réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 10 avril qu'il a opposée à 13 autres candidats, le président sortant Idriss Déby Itno a déjà rendu public le premier acte de son nouveau quinquennat. Il entend réclamer un audit de tous les services étatiques pour son mandat en cours. Une décision qui suscite des débats à N'Djamena. Des précisions avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Accédé au pouvoir en 1990, Idriss Déby Itno a été réélu pour la 5e fois consécutive. Proclamé gagnant dès le premier tour avec 59,92% par le Conseil constitutionnel, le président sortant continue à savourer sa victoire, pourtant contestée par 6 autres candidats de l'opposition et une partie de la société civile. Alors qu'il n'a pas encore été investi, il déroule déjà le premier acte de son 5e mandat.
Pour démarrer le nouveau quinquennat, le premier acte que nous ferons, c'est de faire un audit de la gestion du Tchad pendant les 5 années passées. Secteur par secteur, ministère par ministère, société par société, direction par direction.
Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, ne croit pas à cette déclaration.
Qui va faire cet audit du Tchad de ces 5 années de régime de Déby? C'est qui? C'est peut-être dépenser de l'argent pour rien. C'est un effet d'annonce. Restons là. Et puis c'est tout.
Il déclare par ailleurs que même s'il y a audit, ces résultats ne seront pas appliqués.
Certaines formes d'audit ont identifié son frère comme ayant détourné 136 milliards. Et son frère est là. Les grandes entreprises même au Tchad là, sont détenues par qui? Par ses frères. Et tous ces audits-là vont donner un résultat qui n'aboutira à rien du tout.
Le porte-parole de la coalition de la société civile pour la bonne gouvernance, Soumaïn Adoum, se félicite de cette déclaration.
Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il le fasse. Et surtout qu'il le fasse par une institution qui soit indépendante, autonome de l'État. Là où on l'attend, c'est quelle suite va être donnée. Y aurait-il des mesures qui seraient prises pour des personnes indélicates?
Pour le constitutionnaliste et ancien chercheur à l'université de N'Djamena, professeur Ahmad Mohamed Hassan, il est trop tôt pour Idriss Déby Itno de faire une telle déclaration.
Si on se réfère exactement à l'esprit de la constitution, nous avons 3 Idriss Déby. On a un Idriss Déby candidat à sa propre succession, Idriss Déby nouveau président réélu, mais il n'entre légalement en fonction, conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, qu'après l'expiration du précédent mandat. Maintenant, à cette période-là, ce n'est ni le candidat Idriss Déby, ni le nouveau président Idriss Déby investi, mais il s'agit encore de l'ancien président de la République qui n'a pas encore terminé de jouir de son mandat qui se termine le 7 août 2016 à minuit. Maintenant, quand il dévoile cela, je crois qu'il aurait dû attendre un peu.
André Koduma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Crise au Burundi, l'opposition burundaise en exil, regroupée au sein du conseil Sénaret Giriteka, refuse de se rendre demain à Arusha en Tanzanie pour les premières consultations séparées devant relancer le dialogue entre Burundais. Motif, l'opposition entend participer à la session en tant qu'une seule entité et n'accepte pas des invitations individualisées en dehors du cadre Sénaret Giriteka. Thierry Vieux-Coulon de l'International Crisis Group parle d'un mauvais départ et estime que le médiateur tanzanien se trouve dans une position assez difficile. Joint par Eric Manirakiza, M. Vieux-Coulon a dit que l'opposition et le régime de Bujumbura sont tous deux perdants.
Pour le moment, je crois que tout le monde perd. C'est un jeu perdant-perdant. Je crois que c'est un jeu perdant pour l'opposition de ne pas aller à Arusha, même si elle n'est pas sous le sigle PNARED, parce que c'est quand même une opportunité de dire ce qu'il pense au gouvernement, ce qu'il manque. C'est aussi un élément qui n'est pas favorable à l'opposition parce que ça montre cette division, ça montre que c'est une opposition qui reste quand même très divisée, qui n'est pas capable de monter un vrai front commun face au gouvernement. Et puis du côté du gouvernement, je crois que la plupart des gens diront que sa politique actuelle n'est pas tenable dans la durée, que la situation économique va devenir de plus en plus dure pour les Burundais et que ça va rendre le pouvoir de plus en plus impopulaire.
Thierry Vieux-Coulon de l'International Crisis Group, joint à Paris. Et puis du nouveau sur l'Airbus A320 qui s'est abîmé en Méditerranée orientale. Des sièges d'avion et des valises ont été repêchés aujourd'hui au large des côtes égyptiennes, au lendemain du crash de l'avion d'Égypte en Paris-Le Caire, dans des circonstances toujours mystérieuses. Salwa Jafari.
Il y a quelques instants, nous avons été informés par les autorités égyptiennes de la découverte d'une partie d'un corps, de 2 sièges et de bagages dans la zone où les recherches ont lieu, au sud de l'endroit où le signal de l'avion a été perdu.
Le ministre de la Défense grec donne plus de détails. L'avion a été repéré plus exactement à 290 km au nord d'Alexandrie par des avions et des navires déployés par l'armée égyptienne. Des satellites ont par ailleurs détecté une possible nappe de pétrole à environ 40 km de l'endroit où l'avion a disparu, selon l'Agence spatiale européenne. Ces premiers éléments devraient aider les autorités à comprendre comment le vol a brusquement disparu des écrans radars alors qu'il survolait sans problème apparent et dans un ciel clair la Méditerranée orientale. Les autorités égyptiennes n'écartent pas l'hypothèse du terrorisme. L'absence totale de messages de détresse émis par l'équipage avant la chute brutale de l'appareil conforte cette possibilité.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.